Donc le message aujourd'hui sera un genre de résumé sur le livre de Deutéronome. Et nous allons lire dans nos Bibles, si tu veux venir là pour lire. Donc Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10 à partir de verset 12. Je vais mettre la Bible. Et on va lire jusqu'au verset, chapitre 11, verset 7. Donc, chapitre 10, verset 12, à chapitre 11, et verset 7.
Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme? Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que t'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge, lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Éliab, fils de Ruben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël. Car vos yeux ont vu toutes les grandes choses dont l'Éternel a fait, que l'Éternel a faites.
Merci. Donc ce livre, c'est le cinquième livre de Moïse. Et donc le livre de Deutéronome contient globalement trois discours que Moïse a délivrés devant l'Assemblée d'Israël. Donc, c'était la deuxième génération. Donc, il a lu, il a dit, ce que vos enfants n'ont pas pu voir. C'est-à-dire, il y a les adultes, 20 ans et plus, qui ont quitté l'Égypte. Ça, c'est la première génération. Ils sont tous morts dans le désert. Et la seconde génération, qui était déjà née, mais moins de 20 ans, qui ont quitté l'Égypte. Mais ces gens-là sont tous 40 ans plus âgés maintenant. Et eux, ils ont eu les enfants. Ces enfants-là n'ont pas vu ce qui s'est passé en Égypte. Comme vous non plus. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Égypte. Et c'est ça qu'il veut dire. Toute la première génération est morte. La seconde génération donc, est entièrement mature. Donc, celui qui aurait été, disons, né le même jour qu'ils ont quitté l'Égypte, en supposant comme ça, aurait aujourd'hui à ce moment, 40 ans. Vous voyez, donc le plus jeune de cette seconde génération auront 40 ans. Donc, ils auront, eux, le plus jeune, auront aussi une famille et des enfants. Et donc, ces trois discours sont délivrés devant cette assemblée de cette deuxième et troisième génération. Ils sont le livre couvre 2 mois avant qu'ils entrent dans la terre promise. Donc, c'est tous les 40 ans sont écoulés. Les derniers 2 mois, il y a 3 fois que, voilà, il y a un discours. Et c'est juste après, donc Moïse va mourir et Josué va entrer en terre promise pour combattre contre Jéricho. Il y a environ 100 citations dans le Nouveau Testament qui viennent du livre de Deutéronome. Bon, c'était pour les Juifs, pour les chrétiens de la première génération des chrétiens, donc pour Dieu, eh ben, un livre très important, même pour les chrétiens. L'auteur est Moïse. Moïse, le frère d'Aaron et de Myriam, fils d'Imram, de la tribu de Lévi. C'est très important, ça, pédigré. D'accord? Eh bien, on va voir dans le chapitre 34 qu'il avait 120 ans quand il est mort. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petits détails-là sont cités dans le Coran. Et de là, ils vont dire que ce Moïse-là était l'oncle de Jésus. Il y a une petite erreur là, pour 3 raisons minimum. Premièrement, il y a une erreur chronologique, parce que Moïse a vécu 1400 ans avant Jésus, la naissance de Jésus à Bethléem. 1400 ans. Aussi, il y a une erreur géographique, parce que dans le Coran, Moïse est en Israël. Mais Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Donc, c'est une erreur géographique dans le Coran. Et aussi, il y a une erreur généalogique, parce que le Coran placerait Jésus dans la famille de Lévi. Mais non, Jésus est dans le tribu de Juda. Okay? Donc, il y a 3 erreurs, chronologiques, géographiques et généalogiques. Je vais lire Psaume 12, 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre de, au creuset et 7 fois épuré. C'est-à-dire qu'il n'y a ni erreur, ni contradiction dans la parole de Dieu. Quand vous lisez un livre que j'ai écrit ou que les témoins de Jéhovah ont écrit ou que d'autres personnes ont écrit, vous allez trouver des fautes parce que c'est humain. Mais quand Dieu s'exprime, il s'exprime sans faute, sans contradiction. Dieu ne change jamais, il ne ment jamais, il ne se trompe jamais. La parole exprimé par Dieu, ce que nous appelons les Écritures, la Bible, elle est parfaite. Elle est digne de confiance parce qu'elle est l'expression de Dieu créateur, de Dieu tout-puissant. Donc, le premier point que je veux souligner, c'est que la parole de Dieu est un trésor inestimable. On va regarder dans Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2. Deutéronome. Donc, Deutéronome veut dire la deuxième loi. Hein, donc, il avait donné la loi en Exode, et maintenant, il va répéter la loi pour la nouvelle génération. Mais la loi telle que c'était donnée en Exode, c'était applicable dans le désert. Et maintenant, ils vont habiter des villes. Donc, ce n'est plus les tentes, etc., mais les maisons, etc., qui sont utilisées. Le vocabulaire change légèrement parce que l'objectif a changé. Deutéronome, chapitre 4, verset 1. « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Donc, globalement, il dit, écoutez, mettez en pratique et ne changez rien. Paul a demandé, dans Romains chapitre 3, quel est donc l'avantage des Juifs? Quel avantage aux Juifs? Eh bien, il répond dans Romains 3, 2, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les Écritures n'existaient pas avant le peuple d'Israël. Dieu s'est servi du peuple d'Israël à partir de l'homme Moïse pour inscrire, pour enregistrer la parole de Dieu, pour produire ce que nous appelons les Écritures, ou dans notre vocabulaire, la Bible, la Sainte Bible. Le Dieu créateur, l'Éternel, a parlé à travers des flammes dans un arbuste par une voix à Moïse, hein, dans l'Exode, et il a dit à Moïse d'inscrire les choses, il a poussé et dirigé, même dit les choses spécifiques que Moïse devait écrire, et ces choses-là sont les premiers cinq livres des Écritures. Personne n'a le droit à changer ce que Dieu a dit. Il y a toujours quelques personnes qui essaient, qui modifient, qui font des choses sectaires. Il ne faut pas le faire. Aucune écriture est d'une interprétation privée. Donc, je viens de lire dans Deutéronome chapitre 4 et verset 2 qu'il ne fallait pas changer les choses. Et puis aussi, à la fin de la Bible, le dernier chapitre dans Apocalypse 22, Jésus dit par Jean, dans Apocalypse 22, verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Le point, c'est que Dieu, il a donné une révélation parfaite. Il ne veut pas que nous entrons et mêler et transformer les choses. Il veut que ça reste parfait. Et Dieu va protéger sa parole jusqu'à dans l'éternité. Donc, le second point, c'est que la parole de Dieu est une. Et enfin, c'est la révélation de la personne, du plan et même de la volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu, il y a plein d'informations en ce qui concerne qui Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire, ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut, okay? Sa volonté. Donc, on va lire dans Deutéronome chapitre 10. On a déjà lu tout ce passage tout à l'heure. Ce que je veux faire, c'est résumer. Voilà. On va résumer le texte que Thomas a lu tout à l'heure. On va le résumer dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le texte que Thomas a lu tout à l'heure, c'était plus ou moins ça. C'est raisonnable que les Juifs obéissent et mettent en pratique la parole de Dieu. C'est raisonnable. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. C'est pareil. Dieu, il nous a sauvés. Et c'est raisonnable que nous vivions pour lui. Il continue, ne vous conformez pas au siècle présent. Ben, il nous parle à nous du 21e siècle. Il parlait à eux c'était à l'époque païen. OK? Ici, donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on a des choses qu'on a apprises depuis notre petite enfance qui doivent changer. Hein, pour être agréable à Dieu, on ne peut plus agir comme ceci et comme cela. Même si toutes les autres personnes le font, eh bien, si Dieu ne le veut pas, si dans sa parole il a dit de ne pas le faire ou de le faire, eh bien, nous devons nous conformer à ce que Dieu veut. Pourquoi? Pour être sauvés? Non. Pourquoi donc? Pour plaire à Dieu. Il nous a sauvés et c'est logique que nous allons donner notre vie, mais pas sans intelligence, mais d'une manière intelligente. C'est pour cela qu'il veut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sur quelle base? Sur la base de la parole de Dieu. OK? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça que Dieu veut de nous. Dans le texte que Thomas a lu, donc Deutéronome chapitre 10, verset 12 à chapitre 11, verset 7, on a lu quelques versets qui concernent qui Dieu est. On a lu quelques versets qui disent ce que Dieu a fait, qui il est, ce qu'il a fait, et aussi des promesses que Dieu a faites à Israël. Je voudrais dire quel privilège de connaître et de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Il a donné ça pour nous. Et en prenant un regard historique, il y a beaucoup de chrétiens à travers les siècles qui n'avaient pas une Bible en main. Ou peut-être 10 sur l'étagère dans la maison, n'est-ce pas? Mais nous, on a tout. Et c'est pour nous un grand privilège. Pour vous qu'on l'ouvre, et on le lise, et qu'on le mette en pratique. Dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, en Deutéronome chapitre 10 et 11, on a vu que Dieu désire que les croyants le respectent, qu'il veut que les croyants l'aime. Dieu désire du respect et de l'amour de nous envers lui. Aussi, Dieu veut que nous ayons confiance en lui et dans sa parole. Et donc, je veux lire dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Et on va lire le verset 25 et le verset 29. Ce sont les deux textes concernant Thomas. Thomas le cartésien et Thomas le croyant. OK? Donc, Jean chapitre 20, verset 25. Thomas, l'un des 12. Alors, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il, Thomas, leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mette ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc, Thomas le cartésien. OK? Plus tard, Jésus se présente. Quelques jours plus tard, et on lit dans le verset 29, après que Thomas a dit, on va lire le verset 28 et 29, Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, verset 29, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous, on ne voit rien. On n'a que le témoignage de la parole de Dieu. Soit on croit, soit on ne croit pas. Alors Moïse, il est parti ayant 120 ans. en pleine santé. Pleine santé. On peut le lire dans Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34. Et on va prendre à partir du verset 4. Alors, Deutéronome 34, verset 4, je cherche, voilà. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. C'est dans l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse, il est parti en pleine santé et plein de confiance. Et je vais dire que Nicole aussi, elle est partie, 74 ans. Certes, elle était malade. OK? D'accord. Mais elle était en paix et pleine de confiance. Mais en pensant à Thomas, l'un des douze, avant que Jésus s'est présenté exprès pour lui, Thomas, on va l'appeler le cartésien, n'est-ce pas? Si je ne vois pas, je ne croirai pas. OK? Eh bien, je veux dire, quel dommage. Quel malheur à ceux qui terminent leur vie en ne croyant pas, parce qu'ils n'ont pas vu. Alors, j'ai quelque part ici un petit livre. Je vais faire quelques citations là-dedans. On va écouter les paroles, les dernières paroles, les derniers mots de quelques grands non-croyants. On a Winston Churchill qui, à la fin, a dit « Quel fou ai-je été d'être non-croyant ?» On a Sir Thomas Scott qui a dit « Jusqu'à présent, je ne croyais ni en Dieu ni à l'enfer. Maintenant, je sais qu'ils existent l'un et l'autre et que le jugement équitable du Tout-Puissant me damnera pour l'éternité. » Ce qui est bizarre, c'est que, puisqu'il sait qu'il va être condamné, pourquoi pas croire en Jésus? Pour être pardonné, là, je ne comprends pas, mais c'est les choses qui étaient enregistrées par les gens qui étaient près de ces gens quand ils sont morts. Le cardinal Mazarin avait dit, « Mon âme, qu'adviendra-t-il de toi? Où iras-tu? » Donc, un homme religieux, non croyant, mais religieux, et il ne savait pas où il allait. Thomas Hobbes, un philosophe anglais, dit « Je dois franchir ce pas redoutable qui me conduira dans les ténèbres. » Et puis le philosophe athée David Hume a dit « Je suis dans les flammes. » Et puis en dernier, je vais lire César Borgia, qui, dans ses derniers mots, a dit « Maintenant, je dois mourir sans y être préparé. » Quelle tristesse. Dans Deutéronome, chapitre 5, versets 23, 24, 25, donc Deutéronome chapitre 5. Versets 23 à 25. Donc c'est Moïse qui parle de ceux qui ont quitté l'Égypte. Il dit, lorsque vous êtes... Faut que je corrige mes lunettes peut-être. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Ce n'est pas la voix des croyants. C'est la voix des pécheurs. L'âme qui pêche mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ils se savaient pécheurs. Ils avaient peur de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, au verset 28 et 29, nous lisons « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, mon trône notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Ce qui nous rappelle, n'est-ce pas, de Romains chapitre 12, verset 1. Hein? « Un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Car notre Dieu est un feu dévorant. Donc, en se rappelant des versets dans le Deutéronome. Il n'y a rien qui nous empêche de changer la situation, n'est-ce pas? Il faut simplement croire en Jésus-Christ pour obtenir le pardon de nos péchés. Ayant confiance en Jésus, dans la parole de Dieu, eh bien, que Jésus est déjà mort sur la croix pour nos péchés et que Dieu avait montré qu'il avait accepté entièrement son sacrifice par la résurrection, eh bien, maintenant qu'on croit en Jésus-Christ, d'après ce verset, qu'on devrait lui rendre un culte de vie, une vie vivant, un sacrifice vivant, de piété, donc une sainteté de vie, et une crainte, c'est-à-dire un respect pour Dieu et pour sa parole. Il ne dit pas ces choses pour que les gens soient sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, il veut qu'on ait un culte de vie, de piété et une crainte pour Dieu. Jésus a dit dans Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Donc, il y a d'un côté que Dieu, il donne sa parole. Et avec les Juifs, il a manifesté sa présence à travers 40 ans pour que les gens n'avaient pas de doute de qui c'était, cette voix qui leur parlait tous les jours et à travers Moïse. Dieu a donné sa parole. Nous connaissons qui il est par ce qu'il a dit. Nous savons ce qu'il a fait. Nous savons son plan et ce qu'il va faire. Et nous connaissons sa volonté. Et quoi maintenant? Heureux cet homme, cette femme, pourvu qu'il mette en pratique. Jacques a dit que c'est bête de seulement écouter la parole, mais il faut le mettre en pratique, autrement on se trompe soi-même. Donc l'encouragement aujourd'hui, c'est de ne pas vivre une vie de connaissance, mais une vie de pratique chrétienne. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.